France Inter, le 7-10.
Il est 7h49, Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est évêque de Nanterre.
Bonjour Mathieu Rouget, bonjour Monseigneur.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs.
Une loi pour ouvrir la possibilité de demander une aide à mourir. Comment réagissez-vous ce matin à cette annonce du président de la République ?
C'est une très mauvaise surprise, parce que quand il a réuni encore récemment les responsables des cultes et puis aussi des médecins et des personnes engagées sur ce sujet, le président de la République a annoncé une grande loi en faveur des soins palliatifs, à l'intérieur de laquelle il pensait introduire une disposition pour répondre à des situations inextricables. Et en fait, dans l'interview de ce matin, c'est le contraire.
Qui est publié dans Libération et dans La Croix.
Une grande loi pour l'euthanasie et le suicide assisté, avec quelques dispositions mineures de soutien aux soins palliatifs. Et donc cette inversion de ce qu'il nous avait annoncé est à la fois triste et préoccupante.
Alors, vous parlez d'euthanasie et de suicide assisté. Au contraire, le président précise que le texte ne fera référence ni à l'euthanasie, qui signifie mettre fin aux jours de quelqu'un avec ou sans son consentement, ni au suicide assisté, qui correspond à un choix libre et inconditionnel de disposer de sa vie. Emmanuel Macron tient à l'expression « aide à mourir ». Que pensez-vous de la terminologie utilisée par le président ?
Lors de notre rencontre il y a 3 semaines à l'Élysée, j'avais cité le mot de Camus « mal nommer les choses contribue au malheur du monde ». Et en réalité, en dissimulant ces dispositions derrière un mot un peu valise et un peu doux, le président de la République n'arrive pas à cacher ce que, d'ailleurs, dès maintenant, les associations de médecins et de soignants ont relevé. Ce projet de loi, c'est non pas l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est l'euthanasie et le suicide assisté. Et en quelque sorte, on a...
Donc quand on dit aide à mourir, c'est une litote, c'est un euphémisme, c'est un faux-né ?
C'est une litote, c'est un euphémisme, et en réalité, ce qui est proposé, c'est à la fois la solution belge et la solution suisse.
Mmh. Le pape François a eu cette phrase lapidaire, Monseigneur. « Tuer, ce n'est pas humain. Point. Si tu tues avec des motivations, tu finiras par tuer de nouveau. Aider à mourir, c'est tuer. »
La question de l'interdit de la mort est structurante pour notre société. Si nous pouvons vivre en société, c'est parce que nous faisons collectivement le choix de respecter la vie de chacun de nos semblables. C'est une parole de foi de le dire, parce que nous croyons que chaque personne est créée à l'image de Dieu, mais c'est une parole d'humanité que tous les citoyens peuvent partager. Dans son éditorial politique, Yael Gauz a parlé du progressisme. Aujourd'hui, le véritable progressisme qui permettrait sans doute au président d'entrer dans l'histoire, c'est de promouvoir massivement les soins palliatifs, alors que un quart des départements français en sont dépourvus.
On va y revenir, Monseigneur, aux soins palliatifs. Donc, un instant, quand la mort est déjà là, c'est ce que précise le président de la République, que c'est une loi de fraternité, puisqu'il utilise vos propres mots de fraternité, permet de choisir le moindre mal quand la mort est déjà là. Alors, quand le pronostic vital est engagé à court et à moyen terme, quand la mort est déjà là, est-ce que aider à mourir, c'est tuer ?
Quand le pronostic vital est engagé, la mort n'est pas déjà là. Et beaucoup de nos auditeurs savent, quand on accompagne une personne en fin de vie, il se passe des choses décisives dans le dialogue mutuel, dans les derniers moments, dans les dernières heures. Et on ne peut pas parler de fraternité quand on répond à la souffrance par la mort. Et donc il y a là un usage des termes qui n'est pas acceptable. Et j'étais impressionné de voir que Anne Ponce, éditorialiste de La Croix, oui, un journal plutôt d'ouverture, a parlé d'un détournement de la valeur fraternité. Un détournement de la valeur fraternité.
Je cite le président, on peut penser au cas de patients atteints de cancer en stade terminal qui, pour certains, sont obligés d'aller à l'étranger pour être accompagnés. Comment l'Église répond-elle à cela ? À ces patients qui vont à l'étranger, qui se réservent une place en Suisse, à ces patients à qui on diagnostique une maladie de Charcot et qui savent qu'ils vont mourir dans d'atroces souffrances et qu'ils seront parfaitement lucides, se voyant mourir.
Alors d'abord, dans les dispositions qui sont données actuellement, il n'y a pas les maladies de neurodégénératives. Et le fait que vous les évoquiez montre bien, comme l'avait dit d'ailleurs Robert Badinter, que dès qu'on ouvre une possibilité, même si elle est très encadrée, en réalité, on ouvre une boîte de Pandore. Mais la vraie réponse à des personnes qui sont...
C'est-à-dire, vous avez peur qu'ensuite on étende ce droit
évidemment, vous voyez,
à accéder à l'aide à mourir.
Votre question même manifeste que déjà, on intègre des ouvertures supplémentaires, et puis il y aura le débat au Parlement qui permettra aussi que des propositions soient faites dans ce sens-là. Mais vous voyez, par rapport à des cancers en phase terminale, la première réponse, c'est pas que les gens partent à l'étranger, mais c'est qu'en France, on leur ouvre la possibilité de soins palliatifs. Et c'est là où il est quand même... étonnant que, alors qu'une stratégie décennale a été annoncée à peu près tous les mois depuis 2 ans, elle ne soit pas encore concrétisée. Et je le répète, nous ne sommes pas contre le progrès, nous sommes pour le progrès en humanité. Et le progrès en humanité en France aujourd'hui, ce serait un plan massif sur les soins palliatifs.
Alors, dans l'interview, le président annonce un plan massif sur les soins palliatifs. Et il le dit bien, il s'agit d'accompagner jusqu'au bout, aussi longtemps que possible, une personne qui souhaite être accompagnée dans la fin de sa vie.
Comment prendre au sérieux l'intégration des soins palliatifs, dont on sait d'ailleurs qu'ils sont fragilisés dès que l'euthanasie est légalisée, on le voit au Canada fortement aujourd'hui en particulier, alors même que, par exemple, même dans les chiffres qui sont donnés dans l'interview présidentielle, c'est assez minimaliste sur les soins palliatifs. Et puis vous voyez, il y a des choses qui sont assez étonnantes et presque surprenantes dans leur permissivité, de voir qu'un geste létal serait permis non seulement aux médecins ou aux patients eux-mêmes, mais à une personne volontaire. Choisi. Et puis également que le geste létal puisse avoir lieu non seulement dans un cadre hospitalier, mais aussi chez soi et en EHPAD. Et en EHPAD. L'EHPAD, c'est pour les personnes âgées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va ouvrir massivement la possibilité de recourir aux gestes létaux dans les EHPAD. Vous voyez, le scandale des EHPAD il y a quelques mois serait vraiment peu de choses à côté de cette ouverture.
Alors, Monseigneur, vous dites massivement. C'est réservé aux personnes majeures, aux personnes dont le pronostic vital est engagé, aux patients atteints de maladies incurables, aux patients souffrant de ce qu'on appelle de douleurs réfractaires, qu'on ne peut plus soulager.
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, pourquoi parler des EHPAD à ce moment-là? Vous voyez, c'est là où il y a, dans cette espèce d'en même temps permanent, de contradictions supplémentaires dans les termes. On parle de maladies incurables dans lesquelles le pronostic vital est engagé. Les EHPAD, c'est pour les personnes âgées et qui, par définition, ne sont pas à l'hôpital. Donc, vous voyez, il y a déjà un flou par lequel, vraiment, une logique de non-respect de la dignité humaine peut entrer dans la loi. Et par ailleurs, encore une fois, je le répète, on ne peut pas réfléchir. Même le Conseil national d'éthique, qui avait ouvert une porte vers la mort provoquée, commence par dire qu'il faut aller dans la mise en œuvre la plus large possible des soins palliatifs. Vous voyez, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que, et en dépit de ce qu'affirme le président, mais qui n'est pas crédible, je trouve, dans le contexte qu'il a choisi, eh bien, on a l'impression que, dans la Startup Nation, les personnes non productives n'ont plus droit de cité.
Pour vous, il y a quoi dans cette décision? Une volonté d'efficacité? Je rebondis sur ce que vous venez de dire.
Oui,
violent.
Il y a quelque chose d'incompréhensible et la dissimulation derrière un terme de fraternité, d'absence de fraternité.
Monseigneur, vous accusez le président de la République de vouloir se débarrasser des vieux, des malades et des personnes qui ne servent à rien dans notre société.
Je me demande comment, pourquoi il introduit la mention des EHPAD dans son projet. Et pour moi, la vraie question, c'est comment est-ce que, collectivement, nous sommes une société fraternelle? Comment est-ce que nous respectons la dignité humaine de chacun? Et moi, ce que j'ai envie de dire à tous, c'est devenons toujours davantage digne de notre condition humaine et de notre vocation fraternelle.
Tant de familles, Monseigneur, dans ces moments de fin de vie atrocement douloureux et lourds à vivre et à porter, vous avez vu des personnes qu'on a plongées en sédation longue et profonde. Vous avez vu des familles regarder quelqu'un mourir sans savoir s'il est soulagé de sa souffrance ou non, le regarder se déshydrater pendant des jours et des jours. Est-ce qu'un évêque est sensible à la souffrance?
Un évêque est très sensible à la souffrance. J'ai accompagné mon père il y a quelques mois et il a été hydraté jusqu'au bout. Il n'y a pas eu d'acharnement thérapeutique comme il y a parfois aussi aujourd'hui à l'égard des personnes âgées. Mais les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures ont été un grand moment d'humanité et intégrer l'humanité de la mort, c'est décisif pour que notre société vive vraiment.
Merci Mathieu Rouget.
Merci à vous.
Et merci Sonia De Villers.